Negro spiritual, du cri au chant.
Présenté par Marika Wadek.
Chers auditeurs, dans l'épisode précédent, le 36e, nous avons laissé Solomon Northup alors qu'il venait de subir de cruelles tortures. Qu'est-ce qui a déclenché la fureur du marchand d'esclaves ? Eh bien, le fait que Solomon dise la vérité, la hurle, il est un homme libre. Malgré les apparences de ce monde sophistiqué du Washington de 1841, là où, depuis plus de 60 ans déjà, la déclaration d'indépendance clamait fièrement que tous les hommes créés égaux ont reçu des droits inaliénables, comme la vie et la liberté, eh bien, tout humain ne peut pas se déclarer libre. Les Senior Lights chantent « Tu as le droit d'approcher l'arbre de vie ». Dans l'Apocalypse, au chapitre 22, nous trouvons « Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit, et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. » Retrouvons Solomon.
Mes blessures ne me permettaient pas de rester plus de quelques minutes dans la même position. Aussi, je passais les jours et les nuits à m'asseoir, à me lever, à me tourner en rond. Je ne cessais de penser à ma femme et à mes enfants. Quand le sommeil me terrassait, je rêvais d'eux. Je me revoyais à Saratoga. Je les entendais m'appeler. Mais en quittant mes rêves pour les réalités amères qui m'entouraient, je ne pouvais que gémir et pleurer. Et pourtant, je songeais à sortir de là au plus vite. Il n'avait pas réussi à me briser.
I got a home in that rock, don't you see? I got a home in that rock, don't you see? Between the earth and sky, thought I heard my Savior cry. You got a home in that rock, don't you see?
Oh, I got a home in that rock, don't you see, don't you see?
I got a home in that rock,
don't you see, don't you see?
Between the earth and sky,
I thought I heard
my Savior.
You got a home in that rock, don't you see, don't you see?
Le magnifique chœur de la New Apostolic Church de Cape Town, en Afrique du Sud, affirme « J'ai reçu une demeure dans ce rocher. » Le rocher, bien sûr, c'est Jésus. Le pauvre Lazare a sa demeure au ciel et le riche en enfer, comme nous pouvons le lire dans Luc au chapitre 16.
J'ai souvent eu des soupçons à l'égard de Brown et d'Hamilton, mais je ne pouvais pas me faire à l'idée qu'ils étaient complices de mon enlèvement. Ils allaient certainement venir me chercher. Ils m'arracheraient à cette servitude. Hélas, je n'avais pas encore compris que l'homme est un loup pour l'homme et que sa méchanceté est sans limite lorsqu'il agit par appât du gain. Au bout de quelques jours, on ouvrit la porte et j'eus l'autorisation d'aller dans la cour. J'y rencontrai d'autres esclaves et parmi eux, il y avait même une mère et ses enfants. Nous nous sommes raconté nos histoires. L'un d'eux m'a fortement conseillé de ne plus parler de ma liberté, car, m'assura-t-il, connaissant le caractère de Birch, cela ne pourrait finir que par de nouveaux coups de fouet. Là où nous allions être expédiés à la Nouvelle-Orléans, nous aurions suffisamment d'occasion de connaître le fouet. Dès le soir, nous étions enfermés dans la cellule. À minuit, la porte de la cellule s'ouvrit. Birch et Radburn entrèrent, des lanternes à la main. Birch, en proférant des jurons, nous ordonna de rouler nos couvertures et de nous préparer à embarquer. Il réveilla les enfants en les secouant brutalement. Birch m'attacha avec des menottes à Clem, l'esclave le plus âgé. Nous sortîmes tous dans la rue, par la grande porte. J'aperçus des lumières sur l'avenue, mais il n'y avait personne en vue, pas même un ivrogne. J'étais presque résolu à essayer de fuir, mais j'étais enchaîné au vieux Clem. Radburn fermait la marche. Il portait un gros bâton et forçait les enfants à avancer le plus vite possible. Les menottes aux mains, et en silence, nous traversâmes Washington, capitale d'une nation fondée, dit-on, sur le droit inaliénable de l'homme à la liberté et à la recherche du bonheur. Salut à toi, Columbia, terre de bonheur. Arrivés au bateau, nous fûmes entassés tous les cinq dans la cale, parmi des tonneaux et des caisses de marchandises. Le bateau commença à descendre le Potomac. En dépassant le tombeau de George Washington, la cloche sonna en manière de salut. Du fond de la cale, j'imaginais Birch ôtant son chapeau et s'inclinant avec respect devant les cendres sacrées de l'homme qui avait voué sa vie à la liberté de son pays. Vous écoutez Negro Spiritual du Cri au Chant, présenté par Marika Wadek.
Et oui, malgré le découragement de ses compagnons, Solomon tente de rester confiant en élaborant des dizaines de plans d'évasion. Il prend une décision qui a dû lui coûter, ne plus révéler qu'il est né libre. Il savait maintenant que c'était une des conditions pour éviter le fouet et endormir la vigilance de Birch. Sur le bateau qui les emmène vers le sud, Birch est obligé de mettre ses marchandises toujours menottées à la vue des autres passagers. Solomon note leur attitude, sobrement.
Parfois, un passager s'approchait de l'endroit où nous nous trouvions, nous regardait un moment, puis repartait sans rien dire.
Enfin, ils finissent par atteindre Richmond, capitale de la Virginie, pour arriver à une autre geôle d'esclaves. Le propriétaire est visiblement un ami, partenaire d'affaires, de longue date, de Birch. Il inspecte ses nouvelles acquisitions en commençant par Solomon.
Le propriétaire de cette geôle, M. Goodin, se tourna vers moi, me saisit le bras, me fit pivoter, me regarda attentivement, avait l'air de quelqu'un qui s'y connaît et qui est en train d'estimer la somme qu'il pourrait en tirer.
« Et alors, d'où viens-tu, mon garçon ?»
Oubliant un instant, je répondis « De New York !»«
New York, bon Dieu, qu'est-ce que tu faisais là-bas ?»
À ce moment, je vis que Birch me regardait avec colère, et comprenant ce que cela signifiait, je répondis immédiatement « Oh, je n'ai fait qu'y passer !» de manière à bien montrer que même si j'y étais allé, je n'étais pas originaire de cet état, ni d'aucun autre état libre. Peu après, Birch vient me questionner, à l'abri des regards.
Tu as raconté à cet homme que tu venais de New York.
Je lui ai dit que j'avais été dans l'état de New York, c'est vrai, mais je ne lui ai pas révélé que j'y étais né, ni que j'étais un homme libre. Je n'avais pas l'intention de mal faire, monsieur Birch. J'ai dit cela sans réfléchir.
Si jamais je t'entends dire un seul mot sur New York ou sur ta liberté, ce sera ta mort. Je te tuerai, tu peux me croire.
Cela ne faisait aucun doute. Il pensait ce qu'il disait. Je crois qu'à ce moment-là, il savait mieux que moi les risques qu'il prenait en vendant un homme libre et la peine qu'il encourait. James Henry Birch achetait bon marché et revendait cher ses captures. C'était un spéculateur en chair humaine.
Ever since my sin,
been taken away.
My heart keeps singing
all the time.
Since Jesus was
in His blood.
Oh, my heart keeps
singing
all the time.
My heart keeps singing. Mon cœur ne cesse de chanter nous renvoie à la lettre aux Colossiens, chapitre 3. Que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Un verset qui figure en en-tête de la page de l'émission sur le site de Radio Présence. Solomon continue sa longue descente dans l'enfer du Sud, vers le marché aux esclaves de la Nouvelle-Orléans. Arrivé à Norfolk, le brick sur lequel il navigue embarque des esclaves supplémentaires. Parmi eux, il rencontre son alter ego, en la personne d'Arthur. Lui aussi était né libre, avait un travail, était établi avec sa famille à Norfolk depuis longtemps. Lui aussi avait été lâchement capturé. Lui aussi avait protesté énergiquement contre la privation de ses droits légitimes. Et d'ailleurs, quand il arrive, son visage semblait à vif, tellement il était couvert de contusions. Pourtant, au moment de monter à bord, il trouve encore la force de lutter avec ses gardiens. Pour combien de temps ?
Après son arrivée, Arthur continua pendant quelque temps à protester. Mais à la longue, il devint silencieux, mélancolique et renfermé. Il y avait sur son visage, pourtant énergique, quelque chose qui ressemblait à du désespoir.
Après avoir essuyé une tempête, le calme revient à bord et une complicité s'est tissée entre Solomon et Arthur. Ils partagent leurs souvenirs de famille, souvenirs d'hommes libres. Ils s'accordent en disant que la mort est moins redoutable que l'existence qu'ils allaient subir. Mais dans l'immédiat, l'élan de vie reprend le dessus.
Nous parlions longuement de nos vies passées, mais aussi des possibilités de fuite qui s'offraient à nous. L'un de nous suggéra de s'emparer du brick. Mais alors, serions-nous capables de trouver notre route jusqu'au port de New York ? Dès l'instant où naquit l'idée du complot, je me remis à espérer. J'y pensais sans cesse. J'envisageais chaque obstacle et trouvais toujours un moyen de le surmonter. Tandis que les autres dormaient, Arthur et moi mûrissions nos plans. Nous avons mis dans la confidence un troisième homme, Robert, le seul possible. On ne pouvait pas avoir confiance en les autres, en ceux qui, malheureusement, étaient nés et maintenus dans l'ignorance et dans la peur. Ils étaient tétanisés par le regard d'un blanc, d'une façon que l'on a peine à concevoir.
I've been buked and I've been scorned. J'ai été humilié et rejeté. Nous révèle le cœur révélation. Et comme Solomon aurait pu le dire. Mais ses frères, qui tremblaient devant ce regard blanc, connaissaient peut-être mieux que lui la lettre aux Romains, au chapitre 5. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. En tout cas, Northup, Arthur et Robert élaborent un plan d'évasion détaillé et exécutent même une répétition avec succès. Mais quel est ce plan ?
Finalement, tout fut prêt. Arthur et moi devions pénétrer silencieusement dans la cabine, voler les pistolets et le sabre et en finir rapidement avec le capitaine et son second. Robert, avec un gourdin, se tiendrait sur le pont devant la porte qui conduisait à la cabine et, si nécessaire, il empêcherait les marins d'entrer. Si l'attaque était assez rapide pour prévenir toute résistance, nous laisserions la cale fermée. Dans le cas contraire, nous ferions monter les esclaves et nous étions bien décidés, dans la confusion qui suivrait, à regagner notre liberté ou à perdre la vie. Enfin, je devais prendre la place du pilote et barrer au nord, dans l'espoir qu'un vent favorable nous conduirait vers le pays de la liberté.
Le cœur Béréa nous lance en avant. Nous aurons la victoire. Et les versets 3 et 4 du livre du Deutéronome au chapitre 20 expriment littéralement la suite. Vous êtes aujourd'hui sur le point de combattre vos ennemis. Que votre courage ne faiblisse pas. N'ayez pas peur, ne vous affolez pas, ne tremblez pas devant eux. Car le Seigneur, votre Dieu, marche avec vous afin de combattre pour vous et de vous sauver.
Nous n'attendions plus qu'une occasion pour agir. Quand Robert tomba malade, on sut bien vite qu'il avait la variole. Son état s'aggrava rapidement, et 4 jours avant notre arrivée, il mourut. L'apparition de la variole sema la panique parmi nous. Quant à moi, accablé par la mort de Robert et par l'irruption de la maladie, je restais inconsolable à fixer l'immensité des eaux. Vous écoutez Negro Spiritual, du cri au chant, présenté par Marika Wadek.
I've been in the storm so long, interprété par les Riverside Singers. Je suis dans la tempête depuis si longtemps. Oui, le Seigneur n'empêche pas nos tempêtes, mais il nous empêche de sombrer. Écoutons Matthieu au chapitre 8. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas comment prier. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et pourtant, Solomon, 12 ans plus tard, quand il écrira le récit de l'échec de cette tentative de libération, remerciera Dieu de lui avoir évité d'enfreindre le 6e commandement en tuant les officiers du bateau qui l'amenaient vers sa vie d'esclavage. Solomon et ses compagnons débarquent à la Nouvelle-Orléans. À l'arrivée, la famille d'Arthur l'attendait. Ils étaient venus pour le racheter. Dans le sud profond, il ne faut pas espérer faire valoir légalement la liberté d'un individu noir. Seul l'argent peut faire entendre raison. Mais l'heure de la vente pour tout le monde sonne. Après une journée d'exposition et plusieurs offres pour sa personne, Solomon est emmené en plein cœur de la Louisiane, sur les rives de Bayou Bœuf.
Notre maître s'appelait William Ford. Il est aujourd'hui prédicateur de l'église baptiste. Il passe auprès de ses concitoyens pour un digne serviteur de Dieu. Bien des esprits du Nord jugeront incompatible avec leur conception d'une vie normale et religieuse le fait qu'un homme puisse en assujettir un autre et se livrer à des trafics de chair humaine. Il est vrai que des hommes comme Birch peuvent les inciter à rejeter en bloc toute la classe des propriétaires d'esclaves. Cependant, en ce qui concerne William Ford, moi qui, en tant que son esclave, ai eu le temps de connaître sa nature foncière, je peux dire qu'il n'y a jamais eu de chrétien plus généreux, plus noble et plus sincère que lui. Le milieu dans lequel il a toujours vécu ne lui a pas permis d'apercevoir l'injustice fondamentale sur laquelle repose le système esclavagiste. Il a simplement hérité des mêmes préjugés que ses pères avant lui. Élevé dans d'autres circonstances, il aurait eu, sans aucun doute, des conceptions différentes. Quoi qu'il en soit, c'était un maître exemplaire, agissant avec droiture et compréhension. Si tous les planteurs lui avaient ressemblé, l'esclavage en aurait été moitié moins cruel. Lorsque j'ai servi d'autres planteurs totalement différents de Ford, je ne me suis rendu compte que la moindre allusion à ma véritable identité m'aurait immédiatement fait expédier dans les contrées toujours plus reculées de l'esclavage. Au premier mot que je soufflerais pour faire valoir mon droit à la liberté, on se débarrasserait de moi, comme un larron qui cherche à se défaire d'un cheval volé. Je décidai donc d'enfermer ce secret dans mon cœur, et de ne jamais articuler une syllabe à ce propos, comptant sur la providence et sur ma propre sagacité pour me tirer de là.
Chers auditeurs, cette parole déterminée ne finit pas l'autobiographie de Solomon Northup. Nous aurons l'occasion de le retrouver, mais pour l'heure, nous resterons sur la réflexion d'un autre ancien esclave, aussi auteur d'une autobiographie, Frédéric Douglas. Voici sa réaction à la parution de 12 ans d'esclavage de Solomon Northup en 1853.
Pensez-y. Pendant 30 ans, un homme, avec tous les espoirs, les peurs et les aspirations d'un homme, entouré d'une femme et d'enfants, pour l'appeler par les doux noms de mari et de père, avec une maison aussi humble soit-elle, mais tout de même une maison, puis, pendant 12 ans, il devient une chose, un bien mobilier, classé parmi les mules et les chevaux. Cela glace le sang de penser que de telles choses existent.
De telles choses ont existé. À nous d'observer aujourd'hui ce que nous pouvons en retirer en tant que chrétiens. Chers auditeurs, nous vous remercions chaleureusement pour votre fidélité. Un grand merci à Imanol pour avoir donné vie à Solomon et pour la technique. Bonne semaine avec Radio Présence. En supplément, sur le site, vous trouverez le psaume qui a pu accompagner Northup pendant 12 ans. Negro Spiritual, du cri au chant.
Présenté par Marika Wadek.